commencer et vous remarquerez que le délai de 15 minutes à Toulouse n'est que de 10 minutes dans le Volvest. Donc vers le sud on est plus efficace et finalement. Alors c'est un plaisir pour la pub en vol, pour nous tous, de vous accueillir pour la quatrième séance de cette petite université populaire à Volvest, avec un sujet qui va venir bientôt d'actualité, qui est donc l'Europe. Alors je rappelle que notre petite université populaire est totalement en dehors de toute transmission d'idées politiques, il s'agit simplement de la transmission du partage de connaissances, et nous sommes dans une démarche totalement non partisane, comme bien sûr j'en discutais avec M. Vontron tout à l'heure, qui lui aussi vient en tant que technicien, et non pas, même s'il nous montre quelques photos d'un politique, il les montre toutes, donc ce n'est vraiment pas du tout partisan. Et ça c'est très important dans notre cadre. Je vais faire un petit clin d'œil aux caricasiens. Alors, pour rappeler que l'Europe, elle se fait certes à Bruxelles, elle se fait donc en haut de l'Europe, mais elle se fait également à la base, dans le Volvest, puisque nous avons eu le plaisir l'an dernier de réunir 400 personnes dans la salle polyvalente de Rieux pour une opération qui impliquait Carbone, Carieux, Cas, Caser, Caricas. Et d'ailleurs, le président de cette manifestation est quelque part vers le fond de la salle. Il a levé la main. Voilà. Donc, ces trois villes ont travaillé avec quatre villes jumelles européennes, d'Espagne, d'Italie et de Grande-Bretagne, pendant un an, pour arriver à une réunion ici, qui a duré trois jours, et où ont été échangées des idées sur le bénévolat et la solidarité. L'idée étant de bénéficier des idées des autres pour améliorer nos pratiques. Mais ce soir, il ne s'agit pas du tout de cela, c'est simplement un exemple, et je tiens d'ailleurs à remercier la Maison de l'Europe, dont les conseils ont été intéressants pour monter le dossier que nous avons fait il y a deux ans. Je vais passer la parole maintenant à Jacques Rousse, qui fait partie de notre conseil d'administration et qui va présenter M. Vontron.
Voilà, donc le 25 mai, comme nous en avons fait part dans la presse pour annoncer cette manifestation, le 25 mai, il va y avoir les élections européennes, on va élire des députés, et l'Europe est un peu mal aimée, mais surtout méconnue. Donc,
d'accord.
Donc il était intéressant que on fasse une conférence pour savoir ce qu'est l'Europe. Donc
on éloigne l'Europe.
Je suis sous les feux du
voilà.
Des projets.
Ça résille.
Voilà. Et nous avons fait appel à Monsieur Jacques Vontron, qui donc va nous expliquer, nous donner un petit peu l'histoire de l'Europe et nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors, Monsieur Vontron, vous avez dit que vous alliez plus ou moins partager votre conférence en deux parties, c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une partie qui est plutôt sur l'histoire. Et à la fin de cette première partie, on vous demandera de poser, si vous le souhaitez, de poser des questions. Et après, on passera à la seconde partie. Et en même temps, je vous remercie d'être venu parmi nous. Je pense que ça serait intéressant que, en préambule, vous fassiez peut-être un petit peu, nous expliquer un petit peu votre rôle à la Maison de l'Europe et ce que fait la Maison de l'Europe. Ça serait aussi intéressant. Voilà. Donc je vous laisse la parole et je voulais remercier aussi les médias locales. Il y a eu un pavé sur la page 2 du petit journal, un grand pavé. Donc vraiment c'est très intéressant pour nous. La Dépêche aussi nous a fait un article intéressant pour vous avertir et nous sommes reçus aussi toujours très bien et très chaleureusement par Radio Galaxie. Donc moi je voulais remercier ces trois institutions. Voilà, je vous laisse la parole.
Merci. Ça va marcher?
Oui.
Merci Jacques Rousse, merci cher président de ces mots d'accueil. En effet, je suis vice-président de la Maison de l'Europe à Toulouse, qui s'appelle le Centre d'information Europe Directe. Avant de partir, j'ai eu des instructions très claires de mes collègues de la Maison de l'Europe. Je devais déployer cette bannière de façon, surtout l'intérêt, c'est de voir qu'il y a un site europedirect.europa.eu qui est un site sur lequel vous trouvez un certain nombre de renseignements et qui est assez bien fait, qu'il y a aussi une foire aux questions dedans, et vous pouvez téléphoner aussi à ce numéro 800 où vous aurez des personnes qui vous prendront vos questions et tenteront d'y répondre ou bien vous enverront des renseignements par la suite. J'ai ramené quelques publications aussi que j'ai posées à l'entrée, elles ont peut-être déjà disparu. Si jamais il y avait des commandes supplémentaires, cette Maison de l'Europe est installée, je l'expliquais, à la Dalbade, rue de la Dalbade, donc tout près, on est adossé à l'église de la Dalbade, qui est une merveille de Toulouse, il y en a d'autres, et nous sommes installés dans le bâtiment de la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui nous héberge, c'est merveilleux, on a des bons bureaux là, tout petits, mais c'est très sympathique, et donc c'est ouvert au public. Nous sommes une association, loi 1901, sans but lucratif, bien évidemment, et nous sommes financés en partie par l'Europe, c'est-à-dire par notre bureau, par ce qu'on appelle la délégation à Paris de l'Union européenne, qui est une, on va voir tout à l'heure, la Commission, qui est une antenne de la Commission. Nous n'avons pas de fonction diplomatique, nous sommes là pour disséminer des informations, et c'est pour ça que Jacques Rousse m'avait contacté à cet effet, et c'est ce que nous faisons. Alors, j'ai une écharpe, si le débat s'échauffe, je l'enleverai, c'est parce que j'ai un petit chat dans la gorge en partant, je l'ai gardé, mais je pense que les questions vont venir et ça va m'inciter à tomber l'écharpe, si ce n'est la veste. Bien. D'autre part, ça c'était pour en guise d'introduction pour la prise de renseignement. Bien évidemment, comme tu l'as dit, nous sommes un organisme apolitique. Si j'étais pris en défaut de faire une prise de position politique, je vous en prie, levez la main et rappelez-moi à l'ordre. Bon, chacun a ses défauts, mais je crois qu'on fait attention parce que on est là pour vous aider à choisir, et en particulier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le 25 mai, vous choisissez de voter, de pas voter, de voter blanc, de voter rouge, de voter vert, de voter bleu, c'est votre choix, mais il vaut mieux le faire en connaissance de cause. Donc, c'est un peu cet objectif que je vais tenter ce soir de faire, de vous amener à réfléchir à certaines choses que vous n'avez pas, auxquelles vous n'auriez pas réfléchi. Parce que, bien évidemment, je vais faire un exposé, je dirais, moyen. Il y a des amis ici présents qui ont une connaissance peut-être très pointue, et peut-être même plus pointue que moi, parce que je ne suis pas une encyclopédie roulante à roulettes. J'ai des choses dans la tête, comme vous, j'ai travaillé quand j'étais dans ces institutions, je vais vous en dire un petit mot. Mais il y a des gens qui auront peut-être une connaissance moindre, donc n'hésitez pas, si je ne suis pas clair, trop abscon, de lever la main et de m'interrompre. On est si peu, ça peut se faire d'une manière, comment dirais-je, conviviale. Alors, tout le monde a eu un parcours, certains aussi, je vois des têtes jeunes, bien évidemment, un parcours professionnel, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait en grande partie, pas entièrement, dans les institutions européennes, dans une institution dont on va parler, la Commission européenne. Alors, c'est Bruxelles, oui, mais c'est Bruxelles, mais c'est aussi Strasbourg, et c'est aussi d'autres endroits, qu'on en évoquera tout à l'heure, et je me suis, pour la Commission européenne, comment dirais-je, déplacé professionnellement, et été en poste dans différents endroits divers. Maintenant, je suis à la retraite, à 65 ans, les autorités bruxelloises de la Commission estiment que on doit partir, on doit laisser la main, c'est très bien, et c'est pour ça, j'ai tellement reçu, je dirais, de l'Europe, que je veux le faire partager, et du la meilleure façon, c'est-à-dire d'une manière non engagée et la plus transparente sur les questions. Donc les questions gênantes, je vais les prendre, si je peux y répondre, j'y répondrai, autrement, je veillerai à vous donner des informations par la suite. Alors, j'ai commencé
pas tout au début, mais ma carrière dans l'agriculture et dans la politique agricole commune. Puis, je me suis retrouvé dans une ambassade à l'époque de la Commission européenne. C'était à Washington, à un moment assez chaud, où il y avait un contentieux, de multiples contentieux agricoles, au moment où la politique agricole était très antinomique de ce que voulaient les Américains qu'elle soit. Mais en fait, ils avaient le même type de politique agricole, donc il fallait aller faire des représentations diplomatiques. C'est ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Puis je suis revenu, j'ai fait des négociations d'adhésion d'un certain nombre de pays pour les affaires agricoles, et puis après je me suis retrouvé sur le budget agricole, de la politique agricole commune, puis après sur d'autres budgets, différents budgets, comme celui des affaires extérieures. Voilà. Et c'est là où j'ai arrêté ma carrière. Donc c'est une entreprise, je dirais, pour ceux qui travaillent dans le public ou dans le privé, c'est une entreprise très intéressante parce que on peut avoir une mobilité professionnelle très attirante, et surtout, c'est encore ouvert. Bien souvent, mes collègues français ou d'autres pays se retrouvaient pris dans leur corps professionnel administratif et ne pouvaient guère en sortir. Donc, on a encore actuellement, c'est un petit corps administratif, on va l'évoquer tout à l'heure. Voilà où on en est. Très bien, je vais commencer ma présentation comme Jacques l'a indiqué tout à l'heure. Je commencerai par l'histoire et les principales étapes de la construction européenne, de l'Union européenne, et puis après on passera à des questions, et si vous en avez, je l'espère, et puis après on parlera surtout des élections européennes, parce que c'est quand même l'enjeu maintenant qui nous intéresse tous, pour savoir ce que l'on va mettre, ou si on va mettre un bulletin, le 25 mai prochain. Parfait, alors, on commence par cette carte que j'ai laissée là-bas. Cette carte représente en fait les 28 pays qui sont dans l'Union européenne. Et ceci, c'est tout simple, c'est un chiffre rond, 500 millions d'habitants, 1,5 milliard. Alors, 28 pays parce que la Croatie vient de nous rejoindre juste le 1er juillet 2013. Et c'est ce petit pays. Certains l'ont probablement visité. On va prendre l'étape suivante. Alors, les fondateurs, je ne suis pas un historien, mais ce que l'on peut dire, alors, on s'est limité à un certain nombre de fondateurs. Bon, s'il y a des philosophes ou des historiens parmi vous, ils savent que l'idée européenne remonte à bien plus tôt que Monsieur Konrad Adenauer, Monsieur Winston Churchill, certains pourraient citer un écrivain français, Victor Hugo, qui a écrit sur les États-Unis d'Europe. Il pensait que ce serait bon, donc ça remonte. Mais il y a eu des penseurs qui ont amené l'idée européenne avant. Bon, pour les éléments récents d'histoire qui nous concernent, Winston Churchill est quand même un des... Il a fait un discours, je crois, en 1948, à La Haye, je pense, devant des jeunes, si je ne me trompe pas, et dans lequel il a vraiment pris une option très pro-européenne, pro-européenne dans le sens de la construction européenne. Puis, un élément très très important, bien évidemment, c'est monsieur le premier chancelier de la République fédérale, Konrad Adenauer, à la sortie de la guerre, parce qu'il est évident que l'Allemagne, comme d'autres pays, mais dont le nôtre, la France, était un pion très important sur l'échiquier, et il a tout de suite opté pour une insertion de l'Allemagne dans des organisations plus international, au lieu de se recroqueviller après la dure épreuve que quand même le peuple allemand avait subie et qu'il avait fait subir aussi au reste de l'Europe et du monde. Konrad Adenauer a été un farouche défenseur et promoteur de l'idée européenne, assis de Gasperi en Italie, et puis bien évidemment, Monsieur Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, et Jean Monnet, son mentor, qui ont lancé, disons, la communauté européenne du charbon et d'acier, qui a été, disons, à la suite de c'était 57, je pense, on a signé, c'était 50, je ne veux pas dire de bêtises, on a signé cette communauté européenne du charbon et de l'acier, qui en fait mettait ensemble les forces économiques qui avaient permis la guerre, le charbon et l'acier. Et on les mettait ensemble dans ces six pays qui ont créé, en 1957, l'embryon de ce qui est maintenant l'Union européenne, et de mettre en commun ces richesses économiques. C'était un mouvement politique et économique fondamental. Voilà, je crois qu'on va peut-être passer. Alors, ça c'est une diapositive que je montre, mais bon, le drapeau européen, vous le connaissez probablement. L'hymne européen, c'est aussi, je le montre parce que ça permet parfois aux enfants de chanter l'hymne à la joie. Et je parlais de Villemur il y a deux semaines, donc une activité citoyenne aussi qui était très très belle dans le gymnase de Villemur. Une certaine Madame Gisèle Carrier avait organisé le passage de relais entre les aînés et les jeunes, et elle avait fait chanter par tout un groupe de jeunes l'hymne à la joie. C'était très très beau, et c'était surprenant, mais ça tenait. La journée de l'Europe, on l'appelle en fait la Saint-Schumann, parce que c'est là que a été, c'est dans notre jargon, à nous, c'est la Saint-Schumann, parce qu'en fait, on a congé ce jour-là. Alors que donc les fonctionnaires européens, dont j'étais, je le rappelle, ne peuvent pas prendre de congé le 14 juillet, aucun autre jour national. Le 11 novembre, j'ai toujours travaillé. Bon, mais on a notre Saint-Schumann, la journée de l'Europe, et c'est pour ça qu'il y a une très belle initiative aussi de la région Midi-Pyrénées, qui s'appelle le joli mois de mai en Midi-Pyrénées, qui est lancée par le SGAR, le secrétaire général aux affaires régionales, qui est en fait le préfet de région, et qui fédère tout ce que peuvent faire des associations citoyennes dans le cadre de la fête de l'Europe. Je sais que par exemple le Pays Toulousain, puisque je viens de Pauillac de l'autre côté, mais pas quand mon épouse m'a dit je suis de Pauillac, je l'ai rencontré à Paris. J'ai dit la belle affaire, nous commencions à nous fréquenter. Jusqu'au moment où elle m'a donné l'orthographe, je me suis dit mais tiens, il y a une erreur. Elle m'a dit non, c'est comme ça, PAU à la chassée. Ah bon? J'ai dit tu es sûr, tu es de Pauillac? Je ne savais pas qu'il y avait. Il y a quatre Pauillac en fait en France. Il y en a un bon, non, Pauillac, de l'autre côté, vers Mont-Astruc, la conseillère, est une commune très agréable, dans le Pays Toulousain, donc le nord-est toulousain, et nous faisons, à l'occasion de cela, toute une activité. Le président du Pays Toulousain, Didier Cugive, est un homme très actif et très volontaire sur les affaires européennes. Une devise, unie dans la diversité. Ça c'est très important, et ça plaît aux jeunes, on a une exposition là-dessus. Ça me permet de signaler que nous serons Maison de l'Europe à la Foire internationale de Toulouse. Nous avons été sollicités par, je l'expliquais tout à l'heure, par les organisateurs, et nous pouvons exposer, nous avons 500 mètres carrés, gratuits. On était surpris, parce que c'est une foire commerciale, donc et donc nous serons, valoir ce motto, cette devise, ainsi que jeunesse européenne en mouvement. Voilà la chose. Alors, 27 langues officielles, ça c'est juste pour donner. Alors, vous pouvez vous amuser à retrouver les différentes langues. Il y en a quand même certaines qui sont intéressantes, je crois. Ça c'est l'estonien, ça c'est le tchèque, ça c'est le roumain, le grec, le slovène, le lituanien, le néerlandais, Zenska, ça c'est le suédois, le maltais, bon, et il y a le hongrois, et en fait il y a le gaélique. Alors, toutes ne sont pas utilisées dans, mais ce sont des langues officielles, c'est-à-dire les traités sont traduits. Textes fondateurs sont traduits dans toutes les langues, mais les langues de travail, d'abord le journal officiel, ça c'est une chose importante, s'il y a certains d'entre vous qui sont des fonctionnaires français, ils savent que le journal officiel c'est la Bible, nous aussi à Bruxelles c'est la Bible, tout s'y retrouve. Il n'est pas dans les 24 langues, il est dans les langues usuelles. Par exemple, le gaélique n'est pas repris. Le maltais non plus n'est pas repris, mais il doit y avoir 17 ou 18 langues, je crois, qui sont repris. Et ça sort tous les jours. nous sommes, ça me permet de faire une, nous sommes le plus grand, comment dirais-je, employeur de linguistes pour vérifier la concordance des textes, parce que bien évidemment, un texte peut servir, comme tout journal officiel peut servir comme recours devant des tribunaux, et donc n'importe quelle langue peut servir comme recours. Et ça, c'est un des problèmes. Il faut que quand on fait rentrer le croate, la Croatie, tout l'acquis communautaire doit être traduit en croate. C'est une très lourde charge, mais souvent des gens me posaient la question en me disant, mais est-ce que c'est pas un boulet d'avoir ces 24 langues, peut-être 17-18 langues usuelles, hein, non, c'est en fait la diversité. Et c'est ça la grande différence avec les autres organisations internationales, c'est que les parlementaires, par exemple, parlent tous leur langue. Là aussi, la même chose, probablement pas le gaélique à Strasbourg. Ils parlent tous leur langue. Et ça, c'est important que les gens puissent s'exprimer dans les organismes communautaires avec leur langue. Très bien. Alors, l'histoire, on en revient après les pères fondateurs, à la construction. Donc, d'abord, le traité de Rome, les 6 pays. Donc, la France, l'Italie, l'Allemagne, et les 3 pays du Benelux, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Puis, en 73, l'élargissement à 3 autres pays, donc on passe de heure 6 à heure 9, c'est-à-dire qu'on ajoute l'Irlande, l'Angleterre et le Danemark, 80, la Grèce, 86, très longue négociation, l'Espagne et le Portugal, la péninsule ibérique, 90, c'est le seul élargissement où il n'y a pas eu un pays de plus, puisque c'est la fusion des deux ex-Allemagne, donc on est resté, et c'était une étape extrêmement importante. 1995, je disais le club des riches, parce que c'est en particulier ces négociations d'adhésion que j'ai menées avec, sur l'agriculture. Moi, j'ai occupé de la partie agricole, et donc c'est la Finlande, la Suède et l'Autriche. Les négociations ont été faites avec la Norvège, toutes les négociations ont été faites, je parlais tout à l'heure de l'acquis législatif, il a été traduit aussi en norvégien, tout a été fait jusqu'au bout, et le peuple norvégien a décidé de ne pas rejoindre, donc il y a eu un vote négatif du peuple norvégien, qui en 95, donc le référendum, pas en 95, en 94, ils ont décidé de ne pas rejoindre l'Union européenne. 2004, ça c'est la suite, disons, de la chute qu'on dirige du rideau de fer, donc c'est un élément très important, c'est toute l'Europe de l'Est qui a rejoint l'Union Européenne, c'est un élément fondamental, donc on a les 3 pays baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, puis la Pologne, le grand pays au centre, et puis après on descend, c'est la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie, le petit pays au centre. 2007, donc des pays aussi de l'Est européen qui ont rejoint, mais qui étaient plus en retard et qui n'étaient pas prêts à rejoindre en 2004, la Roumanie et la Bulgarie. Puis 2013, la Croatie. Donc, ceci pour vous indiquer qu'en fait, l'Europe ne s'est pas faite en un jour, l'Union européenne ne s'est pas faite en un jour, et elle est faite de, et nous allons passer peut-être au... oui, on peut passer le suivant. Donc voilà. Le grand élargissement, qui est celui de 2004. Donc 89, la chute du mur de Berlin. 92, les critères d'adhésion, ce sont les critères de Copenhague. On a défini les États membres, parce qu'il y avait 10 pays qui étaient là, qui frappaient à la porte. C'est un peu ce qui se passe avec l'Ukraine actuellement. On a défini les critères. Démocratie, État de droit, économie de marché viable et capacité de mise en œuvre du droit de l'Union. Petit détail, les négociations d'adhésion peuvent durer 3 ans, elles peuvent durer 10 ans. L'exemple, par exemple, de la Turquie, on le verra, qui est un État, comment dirais-je, candidat depuis plus de 10 ans, les négociations d'adhésion se font toujours, on discute, les fonctionnaires à Bruxelles discutent toujours avec les Turcs, mais là où ça bloque, c'est bien évidemment sur la capacité de... sur la démocratie et l'état de droit. La plupart des pays, les 10 pays de l'Est européen, c'était sur la capacité de mise en œuvre du droit de l'Union. C'est-à-dire, c'est très important qu'on doive, on s'assure que le pays candidat sera à même d'appliquer le droit de l'Union européenne. 98, ouverture des négociations formelles en vue de l'élargissement. 2002, le sommet de Copenhague donne le feu vert à l'élargissement. Je me suis trompé, c'était les critères d'adhésion ont été après entérinés au sommet de Copenhague en 2002. 10 nouveaux États membres entrent, j'en ai parlé. Puis, en 2007, la Bulgarie, l'Arménie. Et 2013, la Croatie. On passe à la suivante. Voilà. Alors maintenant, ça c'est, je vais peut-être pas trop insister, c'est les pays candidats et les pays candidats potentiels. Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Islande, des candidats officiellement. Le Kosovo est un pays potentiellement candidat, l'Albanie aussi, la Serbie aussi, et la Turquie est un candidat. Et les 28 pays de l'UE ensemble, c'est une superficie de 4 millions et quelque chose de kilomètres carrés et une population de 500 000. Et une richesse, alors c'est ça qui est assez important de voir, c'est qu'on a un produit intérieur brut par habitant de 25 700. Le seul pays qui dépasse, c'est bien évidemment l'Islande, qui est à 29 500, mais vous avez des pays qui sont, pour la Bosnie, 7 300, comme pour l'Albanie aussi, et la Serbie aussi, ça n'est pas terrible. Donc c'est des pays qui prendront quand même un certain temps. On appelle, ils sont dans la salle d'attente. Elle est chauffée parce que ils ont le droit à des aides, mais c'est quand même une salle d'attente. La Turquie, elle, a une salle d'attente, mais qui est très très longue, très très longue. Voilà, on peut passer au suivant. Alors, on parle, vous avez entendu tous ces mots très souvent de tous les traités. Hein. L'Union européenne est une construction internationale de droit, c'est-à-dire que passe des accords entre pays, ces accords sont signés par les chefs d'État, validés par le Parlement européen maintenant, puis ils sont, ratifiés par les États, par les pays. Alors les procédures de ratification, l'Union européenne ne s'en occupe pas. Chaque pays choisit la procédure de ratification, soit parlementaire, soit référendaire, vote populaire. Donc ça c'est un choix national. Sur lequel l'Union ne se prononce pas, elle reçoit simplement les actes signés au bout de la procédure de ratification. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous ces noms, simplement pour vous que vous rendiez compte que c'est une machine importante, mais c'est une machine nécessaire. C'est-à-dire, et tout à l'heure on parlait des plaintes de nos gouvernants, ou de nos hommes politiques assez souvent, qui disent « c'est de la faute de Bruxelles ». Oui, c'est de la faute de Bruxelles, mais tout est fait en fonction d'éléments qui ont été négociés tous ensemble. Alors, je ne dis pas que Bruxelles n'a pas de responsabilité directe, puisque la commission pour laquelle je travaillais, et on va le voir, est un organe qui gère tous ces traités et tout le droit dérivé qui en découle, mais en général, il est toujours très facile pour nous, parfois, quand on entend, et ce n'est pas une affaire française, chaque ministre qui revient de Bruxelles, d'une négociation, va toujours dire les éléments qu'il a retirés comme positifs, il va ne pas déclarer les éléments qu'il a dû concéder, parce que pour travailler au début à 6 et maintenant à 28, il est évident que dans un paquet de négociations, il y a des choses sur lesquelles on a gagné, le ministre a gagné, et des choses sur lesquelles il a perdu. Et c'est ça, La richesse aussi, on a parlé tout à l'heure de la diversité culturelle, la richesse du processus décisionnel à Bruxelles, c'est cela. Ça en rend peut-être parfois les arcanes un peu difficiles à comprendre. Et là, ça me permet de faire un petit détour sur le problème de la communication. Alors, c'est là aussi, c'est peut-être facile de ma part, connaissant un peu les affaires communautaires, de regretter que la communication sur les affaires européennes ne soit pas plus claire et plus lisible. Mais je vais quand même en donner un exemple. Et là, je vais prendre une position qui n'est pas une position politique. Il y a une chaîne qui a un correspondant permanent, une chaîne de télévision. La deuxième chaîne. Une autre chaîne importante, la première chaîne n'a pas de correspondant permanent sur les affaires européennes. Et le correspondant de la deuxième chaîne fait en même temps la Belgique et les Pays-Bas. C'est-à-dire que quand il y a Dutroux qui fait des siennes, ce monsieur doit suivre aussi l'actualité, même s'il y a une affaire communautaire. Bon. Cela, c'est simplement anecdotique et passager. Mais dans d'autres pays, pas tous, mais dans d'autres pays, il y a un suivi par la presse, par les médias. Je suis désolé s'il y a de la presse ici, mais je le dis parce que je l'ai vécu, il y a un suivi beaucoup plus sérieux. Et la presse, ce n'est pas le seul élément de contrôle démocratique, mais c'est un premier élément. C'est-à-dire que c'est la presse qui d'abord alerte les gens, et après ça, les processus démocratiques normaux, qui ont été décidés dans les traités, doivent fonctionner. Mais je pense que c'est un élément regrettable que notre pays, et je l'ai ressenti encore mieux quand je suis arrivé ici, on me dit l'Europe. Et il y a une grande volonté de la part des citoyens de découvrir l'Europe. Mais je dirais, c'est trop souvent, au niveau des hommes politiques, utilisé comme un mot qui décore une phrase, mais le contenu réel, économique et politique, ici dans la région, et pourtant, cette région est une région qui, la seule région en France qui crée des emplois industriels. Et deuxièmement, c'est une région, je veux dire, dont l'ouverture économique internationale n'est plus à démontrer. Même si c'est une région très agricole, elle a les deux extrêmes. Eh bien, l'ouverture à l'Europe n'est pas énorme. Elle est beaucoup plus marquée dans un pays sinistré comme la Lorraine, où, bon, vous me direz, c'est probablement aussi une question de gravité géographique. Centre de gravité est un peu loin. Bon. Mais je pense que on avait parlé tout à l'heure de l'action qui est faite auprès des jeunes. On s'aperçoit, nous, il y a beaucoup de travail qui est fait dans les écoles pour faire connaître l'Europe. C'est pas pour dire que l'Europe est merveilleuse, mais quand on la connaît, on peut mieux la critiquer. Passons à la suite. Alors, maintenant, pour mettre en perspective un petit peu la population de l'UE par rapport à d'autres grands groupes économiques, bon, nous sommes 500,5 milliards de personnes, la Chine, c'est 1,3, l'Inde, 1,2, le Japon, 127, la Russie, 143, et les États-Unis, 300 et quelques. Voilà simplement pour montrer en population là où nous sommes. Si nous divisons ces 500 milliards en 28 petites parcelles, vous pouvez vous imaginer que ça représente des poussières par rapport à la population mondiale. On peut voir la suite. Au point de vue superficie. Alors, là aussi, mais c'est pas les mêmes rapports entre les différents blocs, l'UE, on a vu, 4 millions de kilomètres carrés, la Chine, plus du double, l'Inde un peu moins, le Japon très faible, la Russie, là, 40 fois plus que l'Union Européenne, si je dis non, 4 fois plus, les États-Unis, 2 fois plus. Bon. On peut passer à la suite. Richesse de l'UE par rapport au reste du monde. Alors, importance de l'économie dans le produit intérieur brut en milliards d'euros. L'Union Européenne, 12 600 milliards d'euros. La Chine, moins de la moitié. L'Inde, un dixième. Le Japon, un tiers. La Russie, comme l'Inde. Les États-Unis, dans les mêmes eaux que nous. Par contre, si on le divise par tête de pipe, on a à ce moment-là un classement différent. Les États-Unis en premier lieu, avec 37 000, je pense que c'est des standards de pouvoir d'achat. Bon, c'est une unité qui est utilisée par l'OCDE ou les Nations Unies, je crois que c'est l'OCDE qui l'utilise. Bon, donc 37 000 standards de pouvoir d'achat, nous on est à 25 000, donc un tiers moins. Le Japon est entre les deux, et puis vous voyez la Chine, l'Inde et la Russie, qui se situe en bas, mais avec des potentiels de croissance que l'on connaît. Quelle est la superficie du milieu? Bon, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais bon, simplement pour savoir que la France est en tête, l'Espagne aussi, et le plus petit, c'est Malte. C'est pas trop passionnant, je crois qu'on peut passer au 7. La population. Alors là, ça c'est quelque chose aussi que l'on connaît. La population, c'est la population allemande qui est la plus importante. attention, si les Turcs rentrent, ce sera la Turquie. C'est, et c'est pas simplement des affaires statistiques. C'est pas parce que la Turquie va se mettre là. Le problème du nombre de députés. Donc ça, c'est un point important. Parce que le nombre de députés au Parlement européen, c'est en fonction des populations. C'est pour ça que le contingent des députés allemands est le plus important à Strasbourg. Si la Turquie rentrait, ce serait la Turquie. PIB par habitant. Là, c'est en je pense que c'est des indices. C'est des indices. Alors, si vous avez de l'argent au Luxembourg, vous savez déjà que vous êtes plus riche que les autres. J'en ai pas. Puis vous continuez. Vous avez un paquet. Ça, c'est probablement un artifice, on dirait, ce 272. Je pense pas en se baladant au Luxembourg. J'ai pas vu qu'ils étaient plus riches. Je pense qu'ils doivent peut-être en avoir plus dans les coffres-forts que nous. Mais je pense qu'il y a l'effet des banques qui sont installées, qui font que le PIB est plus important. Après, on a un paquet. L'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas, tout ça. Et enfin, on descend dans les moyens et les petits, c'est la Roumanie et la Bulgarie, les deux derniers qui sont entrés, mais la Croatie, la Lettonie, la Hongrie sont aussi très moyennement placés. Alors, tout ça, ces éléments pour vous dire que, oui, nous sommes forts ensemble, mais nous sommes aussi très différents. Et ça, c'est un des éléments qui ne vous a pas échappé, ça paraît une banalité folle de le dire, mais c'est important dans la négociation. Parce que pour faire des accords sur des tas d'éléments, il faut trouver, et c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, les ministres doivent ramener quelque chose à la maison, bien évidemment. Donc c'est pour ça que le processus décisionnel est long, relativement long, je dirais, parfois pas si long que ça, mais est plus long que si on était tout seul à décider, un seul gouvernement. Et puis, parfois les choses ne sont pas visibles, sont un peu complexes à lire. Et c'est vrai que et c'est là que la pédagogie des médias aide. Je ne pense pas que je vais m'allonger là-dessus. Les cinq objectifs pour lui on peut passer. La réponse à la crise économique, on pourra le voir dans les questions. Voilà. Le budget, comment l'UE dépense son argent. Le budget, c'est en fait. Au total, un peu plus d'1%, le budget de l'Union, 1% du produit intérieur brut de l'Union. Est-ce que vous avez une idée, quel est le budget d'un pays normal, en la France, de Royaume-Uni ou de là? En pourcentage du PIB de la France, en pourcentage du PIB du Royaume-Uni, en pourcentage du PIB de l'Italie. C'est beaucoup plus. Selon les pays, c'est entre 40 et 60%. Donc, le budget de l'Union, c'est pas pour dire que ça coûte pas, vous savez, Bruxelles, ça coûte. C'est clair. Ça coûte 1% du PIB. C'est-à-dire que quand on gagne 100, quelque part, il y a 1 qui sert à Bruxelles. Pourquoi il est plus faible, le budget de l'Union? C'est parce qu'il n'y a pas certaines fonctions régaliennes qui sont exercées par ce budget. La défense, l'éducation, la justice, l'éducation, nous venons en complément des actions faites par les États membres de façon à donner un plus, par exemple Erasmus. Mais l'essentiel des dépenses d'enseignement sont assumées par l'État membre, avec son système. C'est-à-dire que, là aussi, vous voyez, il y a des politiques qui sont intégrées, il y a d'autres politiques qui ne sont pas intégrées. Et ça correspond à une subsidiarité très claire entre les États membres et le niveau communautaire. Donc ça, c'est la construction des différents traités qui fait qu'il y a une séparation. Et les fonctionnaires à Bruxelles doivent faire très attention à ne pas marcher sur les plates-bandes des États membres. Alors, ce budget, c'est 150 milliards d'euros, ça paraît important, mais c'est une faible partie du revenu national. Alors, l'essentiel, c'est en fait l'agriculture, 40%. 40% du budget de 150 milliards d'euros, c'était le budget de l'année dernière. Hein. Puis la croissance durable, c'est-à-dire ce qu'on appelle les fonds régionaux, les fonds de cohésion. 47%. Il y a 10 ans, c'est l'inverse. L'agriculture, c'était 60-75% du budget communautaire était sur l'agriculture. l'agriculture, à peu, comme les pétroliers, ça a mis du temps, c'est pas d'un jour à l'autre, l'agriculture s'est rationalisée, le budget agricole s'est rationalisé, modernisé, et ce sont d'autres politiques, celles des fonds régionaux, qui ont été causées par l'entrée de la Grande-Bretagne et après des pays orientaux, des pays de l'Est, qui ont des demandes de développement régional très importantes. Alors, l'UE dans le monde, c'est un budget dont je me suis occupé, c'est-à-dire, c'est en fait toutes les actions humanitaires, ou toutes les actions, ce qu'on appelle le partenariat avec les pays méditerranéens, ou le partenariat oriental. C'est 6% du budget, c'est très faible. Mais là aussi, ça vient en complément des actions du Sénat. Là-dedans, par exemple, il n'y a pas du tout l'armée. L'armée n'est pas. C'est dans les traités, les actions militaires ne sont pas financées. Il y a eu, on a rajouté un pilier, on appelle le pilier de la politique européenne de sécurité et de défense, qui est de la coopération intergouvernementale et qui est en partie financée par le budget, mais pas pour des actions militaires, pour des actions de police. Citoyenneté et liberté, si vous voyez, c'est des politiques qui ne coûtent pas cher, 1%. Administration, voilà. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en belge ma pension, ou entre autres, mais le salaire quand j'étais là-bas, l'électricité des institutions, les déplacements du Parlement européen qui s'en va tous les mois de Bruxelles, parce que le lieu, c'est Strasbourg, mais en fait, tout le travail en commission se fait à Bruxelles. Donc, quand vous baladez dans les couloirs du Parlement européen, vous avez des tas de cantines qui ont été faites spécialement pour le Parlement européen, dans lesquelles les gens ont tous leurs dossiers, ils ferment ces cantines, et les gars passent le vendredi soir, ils emmènent tout ça, et ça s'en va à Strasbourg, et ça reste une semaine. C'est dans le traité, la France possède, a le siège du Parlement européen, Strasbourg. Donc, une fois par mois, on a des sessions. Voilà, donc c'était pour indiquer... les coûts d'ordinateur, etc. Toutes les coûts liés à nos 130 délégations dans le monde, qui sont des ambassades, des petites ambassades maintenant, c'est aussi là-dedans dans les 6%. On peut voir la suite. Les sources d'énergie. Oui, peut-être avant, sur le budget, je vais peut-être rajouter un élément, parce que c'est un peu mon dada, et je vais en parler demain à Grenoble à des étudiants. En fait, d'où vient l'argent ? Pour financer ces 150 milliards. Avant, dans les ressources propres, on avait les droits de douane. C'est-à-dire qu'il y a une frontière commune, 6 pays originellement, maintenant 28 pays, et on prélève des droits de douane. Et les droits de douane, de plus en plus, au fur et à mesure des accords commerciaux, diminuent. Donc, c'est une ressource qui se réduit comme une peau de chagrin. On avait aussi, la ressource sur la TVA. Donc, un point de TVA. Quand vous achetez, vous faites des travaux chez vous actuellement, 10% de TVA, un point de cette TVA s'en va à Bruxelles. Donc, un point de TVA s'en va à Bruxelles. Et puis, après, il y a une ressource complémentaire qui est la ressource d'ajustement. Donc, le budget communautaire est un budget qui est voté par les États membres, c'est-à-dire par les gouvernements. Le Parlement ne le vote pas, il l'approuve, mais il ne peut rien dire, c'est les États membres qui payent. Donc ça, c'est laissé entre la main des États membres. Voilà le financement. Les sources d'énergie, peut-être on va laisser tomber sur les sources d'énergie. L'euro. Bon, l'euro est utilisé dans toute la zone euro. Les pays qui n'utilisent pas l'euro et qui ont choisi de ne pas l'utiliser, en gros, c'est le Royaume-Uni, le Danemark et la Suède. Les autres pays sont probablement volontaires, mais ne réunissent pas les conditions pour utiliser l'euro. On se souvient, les nouveaux pays qui rentreront dans la zone euro, maintenant il y a 18 pays dans la zone euro, les nouveaux pays qui rentreront dans la zone euro, ça sera analysé d'une manière beaucoup plus détaillée et sérieuse que ça a été fait pour la Grèce. Ça a été reconnu, les chiffres grecs, qui permettait de décider l'entrée de la Grèce dans la zone euro, n'étaient pas les bons chiffres. Ça a été reconnu. Et donc, mais c'est une communauté de confiance aussi. Alors, bien évidemment, les fonctionnaires à Bruxelles font des doubles contrôles, mais en tout cas, on a vu que maintenant, on a, il n'était pas question au moment de la crise de faire sortir la Grèce. En tout cas, ça aurait été le début de l'effilochage de la zone euro. On peut aller sur la suite. Ah oui. Alors, c'est un des objectifs de l'Union, mais aussi dans la zone euro, mais ça, c'est pas uniquement la zone euro, c'est l'ensemble des... Non, c'est le taux d'inflation dans les 17 pays de l'Union. Maintenant, il y en a 18. Hein. Il y en a plus un pays balte qui a rejoint. Bon, donc on est dans une zone où l'inflation, qui était le grand mal de nos économies dans les années 70 et 80, est maintenant descendue aux alentours de 2 points. Alors, avec l'inflation, avec une inflation basse, peut aller aussi la récession. C'est le problème et de l'ajustement. Marché unique. Je vais peut-être laisser et m'ouvrir aux questions, parce que je crois qu'après c'est des choses détaillées. Donc si vous voulez, avant de passer au Parlement européen, je vous écoute si vous avez des questions. Oui. Alors, ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, le tribunal de La Haye est un point positif qui n'aurait jamais pu exister, dont les conséquences n'auraient jamais pu être faites à un niveau national. Bon. Alors, je voudrais dire, je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, le tribunal de La Haye n'est pas une institution communautaire au sens propre. C'est un accord international dont l'Union est bien évidemment en faveur, mais le tribunal de La Haye c'est un tribunal qui regroupe plus de pays que l'Union européenne. C'est la même chose pour la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Le tribunal de La Haye s'occupe des crimes de la guerre. La Cour européenne des droits de l'homme s'occupe en général des l'exercice des droits de l'homme dans les différents pays membres. Ça aussi, ce n'est pas une création de l'Union européenne. Bien évidemment, l'Union européenne y siège en tant qu'observateur, mais pas en tant que membre. Ce sont les pays. Alors, si vous voulez, ce que je pourrais dire à votre remarque, qui est tout à fait juste, c'est qu'en fait, ça procède du même mouvement. C'est-à-dire que il est évident que quand les Européens ont construit l'Union européenne, probablement est venue en même temps cette sagesse internationale de tenter de mettre en place un tribunal international, mais vous savez qu'il y a certains pays qui n'en sont pas signataires. On le sait très bien. C'était justement la question de monsieur sur le tribunal international me fait penser que j'avais, en sautant les diapositives, j'avais oublié quand même de vous parler des différentes institutions. Parce que, en fait, au niveau de Bruxelles, au niveau... Au niveau de l'Union européenne, il y a un gouvernement qui a été mis en place, qui ressemble, bien évidemment, à nos gouvernements démocratiques nationaux. Donc, il y a un conseil des ministres. C'est-à-dire que chaque ministre de chaque État membre se retrouve dans un conseil. Monsieur Le Foll se trouve, son prédécesseur, Monsieur Le Maire, se trouve dans le conseil agricole. Donc, c'est des conseils dont la composition change régulièrement, puisqu'il y a des élections nationales à tout bout de champ. Évidemment, ce n'est pas Bruxelles qui règle le rythme des élections nationales. C'est une présidence tournante tous les 6 mois. Actuellement, c'est la Grèce qui est présidente. La dernière, c'était la Lituanie, c'est tous les 6 mois. Il adopte les actes législatifs, ceux qui sont publiés dans le journal officiel. Donc le journal officiel est accessible par Internet, dans toutes les langues de l'Union, comme je l'ai dit, et il adopte le budget de l'UE avec le Parlement, comme les actes législatifs. C'était la diapositive auparavant, c'est-à-dire le processus décisionnel, qui fait que maintenant, c'est plus compliqué, mais ça implique le Parlement. Donc, on a des procédures législatives lourdes au point de vue du processus, mais assez rapide par rapport à ce que ça implique comme intervenant. Il gère la politique étrangère de sécurité commune, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire celle qui prévoit éventuellement des actions militaires. Par exemple, le ministre des armées françaises a annoncé, je crois, qu'il y aurait une action militaire de pays de l'Union européenne en Centrafrique. Cette action est décidée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune. Le Parlement n'a rien à dire. La Commission n'a rien à dire. Nous assistons aux délibérations, mais ce sont les États membres qui décident. Ils décident, dans le cas d'espèce, ils décident au cas par cas et sur, en fonction de ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, pour cette opération du Mali, je ne sais pas combien, il y a une dizaine. On a dit qu'il y avait une dizaine de pays qui participaient, je ne sais pas lesquels, si j'étais à Bruxelles, je le saurais. Donc ça, c'est bien une affaire du Conseil. Du Conseil des ministres. Donc, quand on voit, en général, souvent, après une décision, un marathon, là, dans l'ancien temps, c'était les marathons agricoles. On arrêtait la pendule à minuit parce qu'il fallait décider le 30 mars des prix agricoles. On arrêtait la pendule et jusqu'à temps qu'on décidait. Donc c'était simplement une date. Et bien là, le ministre de l'Agriculture sortait et avait décidé et annoncé. C'était l'époque où il n'y avait pas de consultation. Il y avait une consultation pour avis du Parlement. Donc ça ne comptait pas. Maintenant, ils doivent en passer par la deuxième chambre, qui est en fait la chambre du Parlement. Le Parlement européen, dont on va parler tout à l'heure, là maintenant, on peut voir la suite. Alors, Conseil des ministres, on a ici la répartition des voix par pays. Donc vous avez un total de 352 voix, et c'est très important, parce qu'il y a de plus en plus de décisions qui se font à la majorité. Il fut un temps, le bon vieux temps, où un certain général, le grand Charles, faisait la politique de la chaise vide, c'est quelque chose qui ne serait plus possible. Il pourrait faire la chaise vide, à ce moment-là, la machine continuera à tourner et on ne tiendrait pas compte de son avis. C'était l'époque où l'Union, la communauté européenne, se faisait selon le bon vouloir des grands pays. Maintenant, elle a des mécanismes plus lourds qui font que... Très bien. Donc on doit compter. Alors, on ne va pas regarder la première. La majorité qualifiée aura adopté un grand nombre de décisions. Elle se fait, à partir de maintenant, c'est le dernier truc en bas, 55% des États membres. Donc, est réputé décider une proposition de la Commission. Si 55% des États membres, il y a 28 États membres, ça fait en fait 15 États membres. Si 15 États membres sont pour, et si ces 15 États membres représentent 65% de la population. Donc c'est cette double pondération qui fait que, si vous voulez, parce que on ne peut pas décider d'une opération, simplement, je vais dire, et j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, avec Malte, Chypre, l'Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Slovénie. Nous sommes bien d'accord, et ces pays l'ont bien compris. Donc ils ont 4 voix chacun et 3 voix chacun en dessous de la Malte. Donc il est normal que la majorité qualifiée pour adopter la grande majorité des décisions à Bruxelles, maintenant, à partir de 2014, oubliez ceci, c'est 55% d'États membres qui représentent 65% de la population. On peut prendre la chose suivante. Les sommets du Conseil européen. Alors ça, c'est la confusion aussi qu'on a avec la télévision. On voit M. Hollande ou M. Sarkozy avant lui, qui allait à Bruxelles. C'est une chose séparée, le Conseil européen. Ça a été une invention de l'époque du président Giscard d'Estaing, qui l'a mis au point, je crois, avec les Allemands, le chancelier de l'époque, le nom m'échappe maintenant. Bon,
c'était pas Schröder.
Schröder, oui. Merci. Alors, ce sont en fait, ils ne décident pas des directives et des textes. Ils donnent des axes politiques. Mais c'est très important, c'est un organe décisionnel très très important pour le Conseil. Eh bien, après ça, une fois qu'ils ont décidé du cadre, ça retombe dans les mains des ministres de l'Agriculture, des ministres du Travail, des ministres des Transports, toutes les formations que l'on peut imaginer se réunissent. Conseil-là, vous avez, quand vous allez dans le bâtiment du Conseil, qui est au centre à Schuman à Bruxelles, vous avez au moins 5 ou 6 conseils des ministres qui se tiennent. Il n'y en a pas le jour des conseils européens. Parce que là, à ce moment-là, vous avez l'essentiel du parterre en bas qui est occupé par un millier de journalistes. et le rond-point Schuman est couvert de voitures avec des antennes. Alors en particulier si c'est la crise en Ukraine, j'y étais la semaine dernière, il y avait une réunion, pas des chefs d'État, mais une réunion des ministres des Affaires étrangères, il y avait au moins 10 petites voitures avec des antennes satellites. Bon, donc ça ce sont les chefs d'État, dans quelle espèce, voilà, ça c'est le président Hollande, et ça c'est Madame Gribaud-Skelté, qui était la ministre de... la présidente de la République de la... l'Estonie. Voilà. Bon. Et ça, je crois que ça doit être la Danoise, il me semble. C'est celle qui s'est fait une petite, avec Obama, ouais, une ouais. petite photo. Je crois que c'est elle. Je n'avais pas remarqué ça. Et ça, c'est le président du Parlement européen, M. Schulz, socialiste allemand, qui est, on va le voir, candidat pour l'élection prochaine. Ça, c'est le président du Conseil européen, c'est un Belge, un ancien Premier ministre, M. Van Rompuy. On dit dans à la télé française, on dit Van Rompuy, mais c'est Van Rompuy. Alors, ça, monsieur, d'une tristesse fondamentale, mais c'est un poète, il écrit, quelqu'un connaît des vers, des poèmes japonais, ça s'appelle Haïku. Il les écrit pas en japonais, il les écrit, je crois, en néerlandais, parce qu'il est... ou en français, je ne sais plus dans quelle langue il est écrit, mais c'est un monsieur qui a été choisi à bon escient, parce qu'il oublie l'intérêt particulier, c'est un petit pays la Belgique, donc il oublie son intérêt particulier, et vraiment, c'est un type qui fait des deals. Il fait des deals à 28 pays, il faut quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui oublie complètement son ego. C'est pas la même chose pour la Commission, où il faut une parce que là, aucun de ces personnes qui sont là ne veulent que l'ego du président du Conseil soit plus important que la leur, bien évidemment. Donc ils choisissent quelqu'un qui a un ego. Et ce monsieur fait un travail excellent. Il est pas reconnu par les médias, mais ça c'est pas grave, parce que son boulot, il le fait. Voilà, bon, je ne veux pas insister sur tous les autres. Voilà, Madame Merkel, elle n'est pas chef d'État, elle est au deuxième rang. Là aussi, si vous voulez. Là, ce sont des chefs d'État. Elle est une présidente. Je ne savais pas qu'elle était chef d'État, je ne comprends pas ça. Mais donc, il y a un protocole très, très sophistiqué. Bon, ça, c'était le conseil. Alors, c'est voilà, la Commission européenne. Alors ça, la Commission européenne, c'est l'organe dans lequel je travaillais. Ça, c'est l'organe de proposition. Toutes les directives sont proposées. Les règlements sont proposés par la Commission, c'est comme un conseil des ministres. C'est pas le conseil des ministres de l'autre côté de la rue, c'est le conseil des ministres qui propose. Pas de pouvoir de décision, sauf un pouvoir de décision exécutive. C'est-à-dire, dans le cadre des règlements qui ont été décidés, des directives qui ont été décidées, elle prend des règlements d'exécution. Et elle vérifie, c'est l'organe exécutif, elle est la gardienne des traités. C'est-à-dire qu'elle peut traîner un État membre devant la Cour de justice pour infraction. Ça arrive, par exemple, pour la directive sur les eaux d'écoulement, pour d'autres aspects, les États membres qui mettent la législation communautaire en retard en application peuvent être traînés par la Commission devant la Cour de justice. Et à ce moment-là, la Cour de justice, on va voir, c'est une autre institution, et elle représente l'UE sur la scène mondiale, comme je vous l'ai dit, on a 130 délégations, 130 ambassades. La suite, ça c'est la Banque Centrale Européenne. Alors, elle veille à la stabilité des prix, gère les réserves monétaires et fixe les taux d'intérêt, travaille en toute indépendance par rapport au gouvernement. Ça c'est très important. Les Allemands voulaient bien que l'euro existe et que la Banque Centrale existe, mais dans la mesure où il y avait une frontière infranchissable. Et c'est le cas. C'est M. Draghi, avant lui c'était un Français. Puis on doit arriver, c'est la fin. Il y a en fait la Cour de justice européenne, qui alors, la Cour de justice européenne, est à Luxembourg, et c'est un organe qui est issu des traités. Il y a un juge par pays. Donc il y a 28 juges, puisque le 28e vient d'être nommé, le croate, enfin, je pense qu'il a été nommé, et là, elle ne juge que des affaires communautaires, c'est-à-dire que il y a deux instances, d'abord les États, qui peuvent faire des recours, la Commission, qui peut faire des recours, et puis il y a un tribunal de première instance où des individus peuvent faire recours. c'est une, et elle ne se réfère comme base juridique qu'aux traités, des différents traités qu'on a vus. Et un tribunal d'un pays membre peut se déclarer incompétent parce que un citoyen a fait un recours devant un tribunal, et au fur et à mesure, avec des échelons, ça va venir à Luxembourg, à la Cour européenne de justice, qui va décider si elle se saisit de cette affaire, et si c'est une affaire du droit de l'Union européenne. Voilà. Je ne vous ai pas trop saoulé. On passe à la suite, où il y a encore d'autres questions. Oui. Alors, non mais précis, donc la bonne question c'est, est-ce qu'on sait où s'arrête l'Europe? Vous voulez dire au point de vue de la frontière?
Ben, au point de vue de qui on doit accepter, on peut accepter en Europe, la Russie, ça peut faire partie de l'Europe, oui.
Alors, c'est une réponse, c'est une excellente question. Disent des gens, vous savez les politiques, c'est parce qu'ils n'ont pas la réponse. Bon, donc, il y a plusieurs réponses. En fait, je vous ai montré tout à l'heure les critères de Copenhague qui ont été fixés. Mais ça ne suffit pas. Mais ça peut être clair. Par exemple, le critère de Copenhague, si on l'applique à la Russie, on peut dire merci bien au prochain tour. Bon. Mais à un moment donné, les Marocains, le Maroc, posait sa candidature. Bon. Alors, on a quand même reconnu qu'il y avait une continuité géographique. Mais l'Islande a déposé sa candidature, et tout le monde comme un seul homme, parce que quand on pose sa candidature, n'importe quel État, le Maroc peut le faire, la décision de donner le nom de candidat et de commencer les négociations, c'est le Conseil, et à l'unanimité. C'est-à-dire, maintenant les 28 pays, à l'époque 27 pays, donc les 28 pays doivent dire oui, nous considérons que l'Islande, à l'époque c'était 27, hein, mais la Croatie, quand elle est rentrée, elle a dû dire oui à ça aussi. Donc ça c'est un autre problème, c'est cette fameuse acquis. Eh bien, on a dû dire oui. Alors là, quel était le critère? C'était un critère de système économique, d'ouverture des échanges économiques de l'Islande vis-à-vis de l'Union européenne ou vis-à-vis du bloc occidental. Donc c'est bien difficile. La Russie viendrait, pour le moment, ça ne se poserait pas, mais la difficulté, par contre, les frontières... Pardon? Oui. Il suffit d'appliquer les critères démocratiques pour le moment, peut-être que M. Poutine va changer, en tout cas. Donc là, mais la Turquie, en tout cas, c'est bien difficile, parce que il y a des intérêts économiques très importants pour l'ensemble des pays, l'Allemagne en particulier, mais les autres pays de l'Union aussi. Par contre, il y a un problème, comment dirais-je, de respect des valeurs démocratiques, qui n'est pas du tout conçu, et de plus en plus actuellement, même si à un moment donné, on voyait qu'il y avait une orientation vers des valeurs démocratiques que nous connaissons, ça n'est plus le cas. Donc là, il y a maintenant une dissension. Il n'y a pas de frontières, mais il est évident que si le Japon se présentait, on ne prendrait pas, parce que là, la continuité n'est plus respectée. Dans le cas de l'Islande, il n'y a pas de continuité géographique. Une autre question?
Oui, moi j'en ai une. Au sujet de la commission, c'est-à-dire que je voudrais avoir un petit peu plus de précision sur comment elle est formée, les commissaires européens, et parce que ça va être important aussi de savoir un petit peu comment elle est formée, d'autant que le Parlement va avoir une responsabilité maintenant dans la nomination du président. Voilà. Donc, si vous pouvez nous donner quelque chose.
Tout à fait. Et on va le voir tout à l'heure dans les diapositives suivantes, mais ça permet d'en parler. Donc, elle est formée. Donc, elle est formée d'hommes politiques. Actuellement, le commissaire français, c'est Monsieur Barnier. Bon. Avant lui, non, Lamassoure, non, il est au Parlement. Lamassoure est au Parlement. Pardon? Oui, dans l'ancien temps, Édith Cresson, il y a 89, je crois, j'ai vu d'ailleurs Madame Édith Cresson au Parlement européen. Je m'occupais à ce moment-là de ce qu'on appelle la décharge. Tous les ans, le Parlement européen donne la décharge du budget à la Commission sur l'exécution, parce que c'est la Commission qui exécute le budget, les 150 milliards. Et à un moment donné, il y avait quelques malversations, c'est clair, entre autres dans certains cabinets, je ne dirais pas lesquels, mais ils étaient connus à l'époque, mais qui étaient de la monnaie courante habituelle dans les pays latins, c'est-à-dire on donne des contrats à des gens qu'on connaît. Donc il n'y avait pas réellement des gens qui s'étaient mis le doigt dans le pot de confiture et qui avaient été pris en flagrant délit, non, c'est-à-dire qu'on donne un contrat d'étude. Eh bien, au moment où la commission devait tomber, c'était la commission Santerre des Luxembourgeois Santerre, elle était devant le Parlement européen, elle n'est pas tombée par le Parlement. Le Parlement a toujours dit, a toujours laissé planer l'histoire. Elle a démissionné. Elle a démissionné contre un des Français. Parce qu'on n'était pas sûr que les parlementaires voteraient la destitution. Mais donc ça a été réglé. Eh bien, devant le Parlement européen, Monsieur Marine, qui était aussi un peu concerné, était commissaire espagnol, il s'est levé, il a fait, bien avant les Américains, bien avant Clinton, il s'est levé, il s'est excusé. Il a parlé devant les parlementaires, il a dit, je suis désolé, il a raconté des histoires et tout ça, il a été absous. Madame Cresson, correcte, fonceuse, elle est restée assise, elle a dit, je ne reconnais rien, et elle a traité le Parlement avec mépris. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'existerait plus. C'était parce que vous parliez de ma question, moi je l'ai vu, elle est fonceuse, elle ne se laisse pas démonter. Bon, mais ça, ça n'existe plus. Alors, donc, la commission, en fait, c'est un commissaire par État. Le nouveau processus, et ça on va le voir, le nouveau processus, c'est que maintenant, tout d'abord, le Conseil européen décidera du candidat. Et selon le traité de Lisbonne, ce candidat doit être issu du résultat des élections européennes. Du Parlement. Il doit être issu. Alors, ça veut dire quoi? Parce que il n'y aura pas de majorité absolue aux élections européennes. Enfin, sauf si vraiment les sondages se trompent, mais en fait, il semblera que ça va être encore une fois assez bien réparti. Comme une chambre dans les pays où il y a le plus de proportionnels. Pas dans des systèmes majoritaires comme le nôtre, ou au Royaume-Uni. Donc, le Conseil va choisir quelqu'un. Il aura plusieurs. Est-ce qu'il va nommer M. Schulz? On ne sait pas. Est-ce qu'il va nommer le candidat de droite, c'est-à-dire qu'on appelle le PPE? On ne sait pas. Bon. Et puis, ça, c'est entre les mains du Parlement. Le Parlement peut dire, je n'en veux pas. Maintenant, après Lisbonne, il peut renvoyer le candidat X. La candidate X, que le Conseil européen lui aura donné. Le Conseil européen a un mois maintenant, dans la nouvelle procédure, pour lui renvoyer un nouveau candidat ou une nouvelle candidate. Alors, je crois que, à ce moment-là, on espère que ça va se régler au deuxième. Cette fois-ci, on espère que ça sera la première fois que ça marchera sur ce système. Donc, c'est le président du Parlement européen, il va être nommé par les États membres, les 28 États membres, mais il va être élu par le Parlement, en séance plénière et en public. Puis, après ça, supposons que ce soit, mettons, je ne sais pas si c'est M. Schulz, ou n'importe qui, ça peut être M. Verhofstadt, le libéral. Bon, à ce moment-là, il retourne, et les États membres envoient chacun un candidat comme commissaire. Donc, si c'est M. Verhofstadt belge, à ce moment-là, la Belgique a eu son quota, les Français envoient un Français, M. Hollande envoie quelqu'un, Mme Merkel envoie quelqu'un, etc. Et ces commissaires seront auditionné et validé par le Parlement européen un par un. On a vu que l'autre fois, il y a 5 ans, ils en ont renvoyé un. C'est possible que ils sont essayés à faire un peu de muscle, et c'est possible que cette fois-ci, sur des bases de critères objectifs, et c'était un critère objectif tout à fait correct, ils renvoient du. Donc il va y avoir un travail musculaire entre le Parlement et le Conseil, parce que c'est l'autre branche de la codécision. Parlementaire et conseil. Voilà. La commission après ça, c'est le conseil au-dessus de la commission, enfin la commission, et après il y a des services, des fonctionnaires qui sont des fonctionnaires de carrière qui ont été embauchés sur concours, comme moi, ça a été le cas en 1975, donc il y a quelques années, et qui sont dans des ministères. Donc, je travaillais au ministère de l'Agriculture, ça s'appelait la Direction Générale de l'Agriculture. Puis j'ai travaillé au ministère du budget, ça s'appelait le ministère de la Direction générale du budget. C'est clair ou...
C'est
c'est très clair. Par contre, il y a toujours un commissaire par État.
Oui.
Parce que j'avais entendu dire à un certain moment qu'il voulait mettre, faire tourner un petit peu, parce que quand on était 15, 12 ou 15 encore, ça faisait 12 ou 15 commissaires.
Il y en a une question, et je sais plus où ça en est.
Mais c'est pas d'actualité encore.
Alors. Je crois que pour cette commission, ça va marcher comme ça, je pense, la prochaine.
D'accord.
Merci. Ce sera un commissaire par État. Alors, il y a d'abord les procédures d'infraction. D'abord, les critères sont définis pour l'entrée. Les négociations se font. Parce qu'une fois que les critères sont définis, on dit l'Islande est candidate, la Turquie est candidate. À ce moment-là, on oublie ces critères et on fait les négociations. Et les négociations, on les fait sur des éléments objectifs, c'est-à-dire, comme j'ai montré tout à l'heure, la capacité du pays à appliquer le droit communautaire. Donc il y a 33 chapitres de négociation. C'est-à-dire, on va regarder en matière agricole. Est-ce que le pays peut appliquer tout ça? Et est-ce qu'il met en œuvre tous ces éléments en préparatif de l'adhésion? Donc, on négocie sur des matières objectives. Et après, quand la Croatie ou l'Islande signe un traité, donc il n'est plus question à ce moment-là de regarder les critères de Copenhague, on regarde l'application du droit des traités qui a été signé. Donc, la Croatie a signé un papier dans lequel elle dit qu'elle acceptait tous les traités. Elle a indiqué qu'elle acceptait toutes les directives communautaires. Donc à ce moment-là, si elle n'appliquait plus.
C'est la technique, désolé.
Alors, la Croatie, à un moment donné, n'appliquait plus certaines des réglementations communautaires, mais plus les critères, à ce moment-là, c'est à la Commission, gardienne du traité, de mettre en infraction, de poursuivre en infraction la Croatie, ça peut être la France, hein. La France a quelques procédures à la Cour de justice européenne. Donc, on n'est plus sur les critères, on est sur le droit dur. Donc, c'est une communauté de droit. C'est une communauté de droit et c'est très important. D'autres questions? Oui? Les modèles de police. Alors, il y a, et là je suis très faible, c'est là que mon encyclopédie roulante, je ne l'ai pas avec moi ce soir, donc mandat d'arrêt européen qui existe et qui a déjà été utilisé de multiples fois. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des pays ont accepté ce mandat d'arrêt et il est lancé par un organe de justice, parce que c'est pas la police qui le fait, c'est un organe de justice qui le déclare et qui l'envoie, si la personne est en Belgique, il l'envoie en Belgique et il est immédiatement reconnu parce qu'il est déjà préparé dans toutes les langues, donc l'arrestation de la personne est beaucoup plus simple. C'est pas simplement comme auparavant, où il y avait une procédure judiciaire qui retombait dans un système, je parlais de la Belgique, belge, qui après étudiait, là le mandat d'arrêt européen, il est reconnu, on vérifie les conditions et à ce moment-là la personne est arrêtée. Un grand pas en avant pour la fluidité des affaires criminelles au-delà des frontières. Mais je ne peux pas vous dire le nombre de fois où il a été utilisé, ni les détails exacts. Mais si vous cherchez sur Internet, ou si vous le désirez, je peux vous le chercher, le mandat d'arrêt européen est récent et très important. Il y a une chose aussi qui est nouvelle, c'est le droit de pétition. Le droit de pétition, c'est-à-dire la pétition, il y a la première qui vient d'être déposée la semaine dernière. C'est-à-dire que la région, les Cazériens, c'est ça? Non, Caricasiens. Les Caricasiens peuvent, tout d'un coup, avoir une idée d'une législation qu'ils pensent au niveau communautaire, et ils pensent qu'elle devrait exister. Donc, ils se mettent ensemble, mais ils doivent trouver des correspondants dans 7 pays. Donc ils doivent trouver leur association, puis en Espagne, en Allemagne, en Belgique, etc. Quand ils ont les 7 pays, ils doivent lancer officiellement cette pétition. Il y a un site qui reçoit ces pétitions, et après ça, cette pétition doit recevoir 1 million de signatures. Dans 7 pays au moins. Aussi. Une fois que ce 1 million de signatures a été réuni, c'est présenté à la Commission et au Parlement, qui doit, sur base de cette pétition, qui a réuni un certain nombre de votes populaires par Internet, de se saisir de ça et de décider si il y a des directives communautaires qui y répondent ou si il faut faire une proposition. Donc c'est à la Commission de le juger. Si elle ne le fait pas correctement, il peut y avoir un recours par le Parlement qui dit que la Commission devrait poser cette. Ça a été fait pour la première fois, c'est dans Lisbonne. On pensait que ça n'allait pas se passer. Bien, sur le droit de l'eau, il y a eu 7 pays. Sept associations dans 7 pays qui ont réuni 1 600 000 signatures et qui viennent de présenter leur pétition. Donc maintenant, ça va suivre son cours. En l'espace de, je sais pas, 6 mois, la Commission doit répondre, et même moins que ça, elle doit répondre. Donc c'est une nouveauté. J'avais l'impression que c'était un gadget un peu pseudo-démocratique, et là j'ai vu que non. En plus, j'en ai parlé à mon fils, qui est un écolo convaincu, qui m'a dit non, c'est très sérieux. Je le dis maintenant, c'est très sérieux. Ils ont raison, les jeunes. Hein. Voilà. Il y a d'autres questions ou on passe au Parlement? Vite, on passe au Parlement. Alors, donc c'est une assemblée multinationale qui siège à Bruxelles pour les commissions et à Strasbourg pour la plénière. 751 députés élus pour 5 ans au suffrage universel depuis 1979. Une institution majeure dans le processus décisionnel, comme je l'ai dit. Alors, ça, c'est une photo du bâtiment à Bruxelles. On peut passer à la suite. Les grandes étapes du Parlement, on va passer. Ça, c'est toute l'histoire, et on arrive là. Okay. Rôle et influence du Parlement européen. Alors, là, le Conseil européen réunit les chefs d'État et de gouvernement, fixe les grandes orientations de la politique européenne. Il nomme la Commission européenne. La navette se fait entre le Conseil des ministres et la Commission européenne. Le Parlement investit et contrôle la Commission. Contrôle, comme je vous l'avais expliqué avec l'histoire de Mme Cresson tout à l'heure. La suite, la procédure de codécision, je vous le laisse pour la fois prochaine. La procédure budgétaire, c'est ma favorite, mais je vous la laisse aussi. Je fais une impasse. Alors, la procédure de codécision devient la procédure législative ordinaire. Le Parlement européen renforce et élargit ses prérogatives dans les nouveaux domaines jusqu'ici réservés au Conseil. Avant, je vous parlais tout à l'heure des marathons agricoles, c'était les conseils des ministres qui décidaient des choses agricoles. Maintenant, le Parlement co-décide. Le Parlement européen élit le président de la Commission européenne et approuve la composition du Collège des commissaires. Le Parlement européen s'engage à respecter la Charte européenne des droits fondamentaux. On peut passer à la suivante. Alors, les partis européens. Alors, ça, c'est parce que là, on arrive un peu, ça va être un petit peu plus long. En fait, c'est assez important de comprendre donc qu'on a 2 niveaux en ce qui concerne les partis politiques. Il y a les partis qui sont reconnus par l'Union européenne. Et puis, il y a des groupes politiques à l'Assemblée. Alors, les partis est considéré comme parti européen, tout parti représenté par des membres élus au Parlement européen ou dans des assemblées législatives au niveau national ou régional, au moins, dans au moins un quart des États membres, et qui a participé ou a l'intention de participer aux élections européennes. Voilà. On va voir pour la France comment ça se décline. Alors, 13 formations sont actuellement reconnues par l'Union européenne. Alors, le PPE, c'est en gros l'UMP, le Parti Socialiste, c'est le Parti Socialiste européen, l'Alliance des Libéraux, c'est les libéraux, c'est-à-dire le, que je dise pas de bêtises, c'est l'UDU ou le MoDem. On verra tout à l'heure. Maintenant, c'est les deux, exactement. Le Parti Vert Européen, l'Alliance des Conservateurs et Réformateurs de l'Europe. Ça, ce sont les conservateurs britanniques. Le Parti de la Gauche Européenne, c'est Mélenchon en France. Le Mouvement pour l'Europe et les Libertés et la Démocratie, c'est M. Deveillier. Le parti démocrate européen n'existe pas en France, je crois. L'Alliance libre européenne non plus. L'Alliance européenne pour la liberté non plus. L'Alliance européenne des mouvements nationaux, je crois que non. Le mouvement politique chrétien européen, ça n'existe pas en France. Et les démocrates européens non plus. On peut passer à la suite. On va voir si je ne suis pas trompé. Voilà. Donc, on a la gauche européenne, le président de la gauche européenne, monsieur Pierre Laurent, et la déclinaison, ça c'est le niveau européen, et la déclinaison française, c'est monsieur Mélenchon et monsieur Laurent. La suite, le PS, Harlem Désir au niveau français, et je pense que ça doit être, à mon avis, un bulgare, ce monsieur, président du Parti Socialiste Européen. Du Parti Socialiste Européen, on n'est pas encore au groupe politique. La suite, Écologie et Vert, madame Kos, et au niveau européen, Parti populaire, Parti vert européen, madame Harms, allemande, et monsieur Cohn-Bendit, qui je crois maintenant vote en Allemagne et puis en France. Le mouvement démocrate, le voilà. Donc au niveau français, monsieur Bayrou, et au niveau européen, le PDE, monsieur Rutelli, italien, et monsieur Bayrou. L'UMP en France, monsieur Copé, au niveau du Parti populaire européen, monsieur Daul, qui est en même temps président du groupe à Strasbourg. Et il est en même temps président du Parti populaire européen. Je crois qu'il ne se présente plus. Monsieur De Villiers pour le MPF, et la déclinaison du Parti européen, c'est le mouvement européen pour les libertés et la démocratie, qui est, elle, je ne sais pas, peut-être une grecque. Peut-être une grecque, mais je ne suis pas sûr. La suite, le niveau français, Madame Le Pen pour le Front National, au niveau européen, l'Alliance européenne pour la liberté, c'est un autrichien, le président de l'Alliance européenne pour la liberté. Et voilà, les fameux partis, l'ALE, avec une faute d'orthographe, vous savez.
Si,
il y a un U qui est sauté. Parce qu'on a fait des économies sur les mouvements régionalistes. Bon, je dis. Voilà. Donc c'est un parti. C'est un parti qui est reconnu parce qu'il est représenté dans des instances, le parti occitan et le parti libre, l'Alliance libre européenne au niveau européen. Mais il y a les mouvements régionalistes, Savoie, Breton et Corse. Et occitan, bien sûr. Voilà. Alors, maintenant, on arrive au groupe politique. Et ça, c'est très très important. C'est pas simplement une formule de... C'est une formule de travail. C'est-à-dire, on va voir tout à l'heure la composition un peu de l'échiquier tel qu'il est. Mais pour travailler à Strasbourg, il faut nécessairement faire des alliances. Simplement pour... à cause de la... Donc, il est absolument important que les groupes se forment et... Les députés européens sont répartis en 7 groupes politiques en fonction de leurs affinités écologiques, idéologiques et politiques. Bon. Donc, quand ils sont élus, ils peuvent très bien, quand ils vont siéger, ils peuvent après se mettre dans un groupe politique ou l'autre. En général, ils restent fidèles à leur parti sur lequel ils ont été élus. Les groupes politiques sont reconnus par le règlement du Parlement européen et ils disposent de moyens financiers et administratifs. Ça, c'est très important. D'autre part, les groupes sont composés d'au moins, alors ça, c'est ça, d'au moins 25 membres issus de 7 États membres. Donc, c'est de façon, et c'est le fonctionnement, et c'est justifié. C'est-à-dire que même si on a un groupe, un parti politique européen, qui est important en nombre, mais s'il est concentré sur un seul État membre, deux États membres, il n'est pas justifié de lui donner le statut de groupe politique, parce qu'il représente un intérêt national limité. Les Anglais, qui sont toujours très intelligents, les conservateurs britanniques, il n'y a pas beaucoup de conservateurs britanniques dans les autres pays. Ben, les conservateurs britanniques, ils sont arrivés à trouver, dans des petits pays, un ou deux gars, chaque fois, ils ont pu former, avec leur langue, ils ont pu former un groupe politique. Excusez-moi de faire une intervention, et je le dis parce que c'est la vérité, les non-inscrits, c'est-à-dire essentiellement, parti jusqu'à présent de Madame Le Pen, n'est pas arrivé à former un groupe politique au Parlement européen. Et l'une des grandes hypothèques que tous les partis attendent, tous les autres attendent, c'est si elle et ses collègues dans les différents... Parce qu'elle a un parti politique européen, il n'y a pas de problème, je vous l'ai montré. Partons, elle n'est pas à même de trouver suffisamment d'alliances. Par exemple, il y a un Britannique connu, c'est UKIP, qui est anti-européen, plus anti-européen que ça, on peut pas le trouver, c'est monsieur Farage, ce monsieur, il ne veut pas siéger, jusqu'à présent, en tout cas dans cette législature-là, il ne veut pas siéger dans le même groupe politique qui n'existe pas avec Madame Le Pen ou avec l'Autrichien. Donc pour elle, pour Madame Le Pen, des issues importantes, c'est de savoir si elle va arriver à trouver cet État membre. C'est possible. À ce moment-là, ce sera un groupe politique comme les autres. Chaque groupe, c'est pas elle uniquement, mais pour la situation politique française, c'est un élément important. Chaque groupe élit un président qui défend la position de sa famille politique au sein de l'hémicycle et siège à la conférence des présidents. Ça, c'est, voilà, c'est important parce que si, dans le cas d'espèce actuellement, les représentants du Front National français ou du Front National belge, il y a un équivalent, je ne crois pas qu'il y ait de députés, mais en tout cas, n'ont pas, ne sont pas dans la conférence des présidents. Dans toute législature, tout un élément important. Les 7 groupes politiques représentés au Parlement sont le Parti Populaire Européen, les socialistes et les démocrates, l'Alliance des libéraux, les Verts, Alliance libre européenne, les conservateurs et réformateurs européens, les conservateurs britanniques, qui ont trouvé 6 autres députés comme ça, la gauche unitaire européenne et Europe, liberté et démocratie. C'est le parti de, si je ne me trompe pas, de M. Louvier. Bon, on va passer aux photos. Alors, ça, c'est assez important. C'est la composition actuelle du Parlement européen. Donc, c'est valable au 1er janvier. Il y a peut-être une porosité, il y a un ou deux qui ont... En gros, c'est ça. Donc, en gros, vous voyez, il n'y a pas un seul parti qui puisse faire la majorité. Vous avez 273. On n'y arrive pas. Donc, il est nécessaire, les socialistes 193, les Verts 58, les libéraux 85, puis les conservateurs britanniques, les conservateurs britanniques 56, le Boué, ça c'est donc avec la gauche, 34. Donc, il faut nécessairement, à Strasbourg, faire des alliances. Et sans faire de prise de position politique aussi, un exemple clair de cet objectif, c'est M. Cohn-Bendit, qui ne se représente pas, donc c'est pour ça que je peux en parler, qui vraiment fait le travail de rechercher des alliances. Il y a un très bon bouquin, et je ne suis pas d'accord sur beaucoup de choses qui sont dites, qui vient de sortir de M. Beauvais, qui explique le travail parlementaire. Il vient juste de le sortir, il l'a présenté une émission télé samedi soir. Il appelle Hold Up à Bruxelles. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas être tellement d'accord parce que. Bon. Mais je veux dire, il décrit très bien la façon dont on doit rechercher. Et ça, c'est extrêmement important pour quelques formations politiques que ce soit. La plupart des formations, les groupes politiques l'ont compris. Et on cherche une alliance sur un texte de loi, de directive. Et puis après, on forme une autre alliance sur un autre texte. Donc c'est un travail parlementaire qui est très différent de ce qui se passe dans certaines capitales. Bon, là, on vous présente le nombre des députés, donc ceux qui sont élus de France. On peut voir, alors, le suivant, je suis allé chercher, donc ça c'est une... Il y a une organisation qui s'appelle Poll Watch 2014. Qui est un organisme qui fédère plusieurs organismes de sondage, qui a donc fait des simulations qui commencent maintenant à se raffiner. C'est un sondage qui est représentatif au niveau communautaire. La déclinaison de chaque État membre, la taille de l'échantillon n'est pas suffisante. Mais les sondages, vous le savez très bien, ont la valeur de ce que ça, hein, c'est-à-dire c'est une photographie instantanée, et encore, alors c'est un peu plus simple de la faire au niveau communautaire, parce que quand on a des grandes circonscriptions et comment dirais-je, des ensembles, on y arrive. Donc c'est pas comme le résultat d'élection qu'on fait en France avec je ne sais pas combien de mairies ou je ne sais pas combien de députés. Là, on a des grandes circonscriptions. Hein. L'Ouest, c'est une circonscription où il y a 10 députés. Alors, simulation, hein, je l'indique bien, c'est une simulation qui est sortie le 19 février, donc c'est pas vieux. Alors là, on a, si vous vous souvenez un peu des chiffres, donc le PPE chute énormément, passe de 270 et quelques à 200. Les socialistes augmentent un peu, ils étaient à 190, je crois, ils passent à 210, à peu de choses près. Bon. Mais là, on a une possibilité d'alliance. Mais ça ne va pas se faire nécessairement sur tous les choses. Bon. On a les libéraux qui, eux, chutent aussi, je crois. Ils passaient, on était à 90, ou je ne sais plus quoi. Et les verts aussi qui diminuent. Le front de gauche augmente. Vous voyez, il augmente. Il était à 40, je crois. 34, il passe à 56. Les conservateurs britanniques, je crois, diminuent. Et les EFD, le parti, la déclinaison française de M. de Villiers, je crois, diminue. Et bien évidemment, sans surprise pour nous, parce qu'on le voit dans les sondages, mais qui surprend d'autres pays, c'est l'énorme montée de ce qu'on appelle actuellement les non-inscrits. On les appelle toujours les non-inscrits. C'est ceux qui, en France, c'est Mme Le Pen, en Allemagne, je crois qu'il n'y en a pas du tout, en Autriche, c'est Obermeier, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc, est-ce que ces 92, et là, la simulation ne le dit pas, est-ce que ces 92 vont permettre de trouver 7 pays, à ce moment-là, un groupe politique en tant que tel. Oui.
Moi, je me demandais comment ça, intellectuellement, ça se travaille le fait que ces partis-là sont contre l'Europe et qu'ils puissent avoir un groupe au sein de l'Europe. Enfin, c'est intellectuel, hein, je comprends au niveau démocratique, mais quand même, ça pose quand même un fait spécifique pour la construction européenne.
Nous sommes une communauté, une union de droit. Il y a des textes qui régissent. Si les partis contre, à ce moment-là, ils vont proposer des modifications au texte réglementaire. Par exemple, un certain nombre de partis, prenons pour parler d'une situation qui n'est pas la nôtre, le parti UKIP anglais, s'il a la possibilité, il va proposer sortir de l'Union européenne. À ce moment-là, s'il avait la majorité, son pays ferait une demande pour sortir. Et donc on entamerait une négociation, ce que l'on ne pouvait pas faire avant, maintenant ce que l'on peut faire. C'est une recommandation, une négociation importante. Bon. Si par contre, et c'est ce qui se passe avec, je suis encore sur l'exemple britannique, parce que c'est toujours plus facile de parler de ce qui se passe de l'autre côté du Channel, M. Cameron a dit, à part le fait qu'il va faire un référendum en 2016, je crois, sur l'appartenance de son pays à l'Union européenne, la position sera probablement positive. On ne sait jamais, les choses peuvent se passer. Par contre, il a demandé ce qu'on appelle en bon français, un opt-out pour une centaine de mesures. Opt-out, ça veut dire dérogation. J'avoue que je me rendais pas compte, mais je l'avais vu et j'en ai discuté avec des gens à Bruxelles. Ça veut dire qu'on arrive à l'Europe à la carte. Mais pour ça, ces négociations sur ces 100 dispositions que le gouvernement actuel du Royaume-Uni veut, dont il veut négocier la sortie, il faudra qu'il le négocie avec les 27 autres États membres. Pour ça, il faudra que les 27 autres États membres soient mesure par mesure d'accord. Et on peut s'imaginer qu'ils ne sont pas d'accord. Pour certaines choses, oui, pour des choses secondaires, mais si elles vont à l'encontre de la libre circulation des personnes et des marchandises, on peut s'imaginer qu'un certain nombre de pays seront opposés à ça. Donc, si vous voulez, intellectuellement, on prend l'habitude, quand on est à Bruxelles, à parler avec tout le monde. dans mon bureau, j'ai vu passer des gens qui étaient entièrement opposés à ce que nous mettions en œuvre. Nous les écoutons, nous les prenons en compte, et après on va dans un débat démocratique avec eux. Donc on ne peut pas, ce n'est pas une dictature, l'Union européenne, on ne peut pas dire, parce que M. Farage, je prends encore les gants, est contre l'euro, et contre l'euro, ce n'est pas son problème, Madame Le Pen, si elle se saisit du dossier de l'euro, d'une manière, et si elle fait des représentations, il est évident qu'on va devoir prendre en compte, et on va prendre en compte, c'est un mécanisme normal. On le fait avec des problèmes plus simples. Donc ce n'est pas une question de position et telle quelle, c'est une question de position démocratique. On doit, et on tiendra les conséquences de ce scrutin. S'il y a un groupe politique, on aura un changement d'ambiance et de discussion très fort pour Mme Le Pen et ses alliés internationaux, ou bien pour les gens qui travaillent et qui sont en face d'elle. C'est clair. Mais c'est comme ça. On ne peut pas exclure les gens qui seront sortis des urnes. Autrement, ce ne serait pas une union de droit. Je ne sais pas, je ne vous ai pas répondu, parce que... mais il va se passer des choses très importantes. Bon, je ne sais pas si l'affiliation... Ah oui, les partis nationaux français, on peut le voir, ça. Alors, il me semble que le PCFPG, au niveau national, s'appelle Parti de la gauche européenne, au niveau du parti politique, et au niveau du groupe politique, GUE, LGN, etc., PS, PSE, SD, EELV, PDE, et... Green, EFA, parti régionaliste, ils ont un parti politique européen, mais ils n'ont pas de représentation, ce n'est pas qu'ils n'aient pas de groupe, ils n'ont pas de représentation au niveau de Strasbourg. Modem, c'est le PDE, l'UMP, UDI, mais alors, c'est la question, on va voir, après il y a une... c'est le PPE, le MPF, c'est le mouvement de M. de Villiers, MELD au niveau parti, et au niveau du groupe, c'est ELD. Et le FN, c'est l'AEL, et ce sont les noms inscrits pour le moment dans cette législature. On peut voir donc la situation avec l'UDI et le MODEM. Donc, allié à l'UMP en 2009, le Parti radical valoisien de Jean-Louis Roux a rejoint le PPE et son groupe politique au Parlement européen suite à son alliance avec le mouvement démocrate dans le cadre de l'alternative fin 2013. L'UDI devrait rejoindre le Parti démocrate européen et siéger dans le groupe de l'Alliance pour les démocrates libéraux pour l'Europe. Ça diminuera d'autant la représentation du PPE. Député européen siégeant, alors ça peut être intéressant, on a parlé tout à l'heure. Alors, sous-commission des droits de l'homme, c'est pas quelqu'un du coin, M. Jean Rouata, sous-commission sécurité et défense, M. Arnaud Dangean, un monsieur très intéressant, commission développement, Eva Jolie-Berthe, qui est présidente, qui a fait un excellent travail, Michel Strifler, je la connais moins. Je ne l'ai pas vu travailler, mais elle est peut-être bien. Yannick Jadot, à la commission du commerce international. Très important, c'est cette commission qui travaille sur l'accord de libre, le projet d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Monsieur Yannick Jadot, vice-président. Commission des budgets, monsieur Lamassoure. Alors, excellent européen convaincu, s'il en fut, un monsieur qui a une autorité. Voilà un monsieur qui sait travailler à Bruxelles. Et je peux le dire d'autant plus, parce qu'il ne sera pas candidat dans cette région, il est passé en Ile-de-France, ça c'est la décision. Alors là, je veux dire, d'une manière générale, en France, on se tire des balles dans le pied. C'est-à-dire que les gens, bien, comme ce monsieur, on l'envoie à Paris. Il va être élu parce qu'il est tête de liste, donc ça va, il a passé. Mais je veux dire, il est quand même l'État. Et quand même, c'est le régional de l'État. Hein, je veux dire, pas de commentaires, parce que je suis pas politique, là je devrais pas dire. Donc, dans ce moment-là, il fait un excellent, il est reconnu à et donc il est élu de Parlement. Il sait travailler. J'avais dit Cohn Mendes tout à l'heure, lui, il sait travailler aussi. C'est des gens qui savent faire des majorités. Il va chercher à faire des majorités. Après, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a encore d'autres. Madame Pervenche Bérès, qui a un très bon travail, à la commission de l'emploi, elle est présidente, de l'affaires sociales, marché intérieur, Verniaud, je ne la connais pas, elle existait probablement à l'époque, monsieur le vice-président transport, agriculture, monsieur Bourdet, a fait un très bon travail aussi, avec la personnalité qu'on connaît, vice-président, il n'est pas le président. Pêche, M. Cadec, pas connu, Mme Castex, qui a tellement travaillé à la commission d'affaires juridiques, ça c'est un autre problème, je ne vais plus faire la politique, là aussi on se tire les balles dans le pied, mais c'est tout, j'ai rien dit. Commission des affaires constitutionnelles, monsieur le Mme Le Grip, vice-présidente, je ne connais pas. Bon, un chantier, je ne connais pas. Voilà. Alors, si vous voulez, c'est ça le problème. Et moi, je vais probablement animer. Désolé. Je vais animer probablement le 25 avril un débat qui se déroulera à salle du Sénéchal. On permet de faire la publicité pour ça, qu'on en vive avec un certain nombre d'associations, dont la Maison de l'Europe, au niveau local. On va faire venir toutes les têtes de liste. On va les faire venir. Alors, on va les inviter. Toutes les têtes de liste. Quelles qu'elles soient, elles seront invitées. Si elles ne viennent pas, c'est leur problème. On dira publiquement qu'elles sont invitées. Si elles viennent au dernier moment, elles viennent au dernier moment. Et nous demanderons à ces députés, futurs députés, candidats, comment ils vont rendre compte de leur travail parlementaire. J'étais très étonné, j'ai assisté à une réunion au mois de novembre avec un vice-président du Parlement européen, M. Martinez, espagnol, qui, tout deux fois par mois, fait une chronique dans son journal local, et il explique ce qu'il a fait à Strasbourg. Ce qu'il a trouvé qui n'était pas bien, ce qu'il a fait. Et donc, il rencontre depuis, et c'est un vice-président qui est depuis plusieurs législatures. Je crois qu'il ne se représente pas là, ce monsieur. Et donc, j'aimerais, je rêve de lire dans certains journaux quotidiens locaux, quelque chose comme ça, de substance, où les députés disent ce qu'il a fait. Au début, quand j'ai assisté à des réunions, il y a un an, ça a commencé un peu à s'activer, les réunions avec les parlementaires de la région, on sentait manifestement, et c'était vrai à gauche et à droite, au centre et à l'extrême gauche et à l'extrême droite aussi, enfin l'extrême droite est déjà bienvenue, parce que c'était invité, c'est pas vrai qu'il est invité. Bien, on sentait qu'il n'y avait pas de connexion entre les électeurs et les députés. Parce que, ils étaient tellement occupés à Strasbourg bon, surtout aussi, ils ont une circonscription électorale énorme. La région sud-ouest, 10 députés, il est évident quand on est à Bordeaux, on s'attache un peu plus à Bordeaux, et on oublie qu'on présente le Languedoc aussi, on aussi.
Donc l'autre jour à la radio, il y avait une émission où il décrivait l'opinion des autres députés européens sur les politiques français. L'idée c'était on envoie aux élections européennes des gens qui n'ont pas aucune avenir politique en France.
Alors, je ne vais pas répondre à votre question, mais je vais dire, la France n'est pas le seul pays.
Ils brillent par leur absence. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, là, ça c'est vrai. Là, ça c'est un fait objectif. Il est mesuré par les... Il y a des choses qui s'appellent Citizen Watch, qui, simplement, ils enregistrent, parce que les gens doivent signer. Donc, et maintenant, d'ailleurs, parce qu'au début, ils venaient, ils signaient, et puis hop, ils prenaient le machin. Bon. Ça se fait dans toutes les chambres, c'est pas les seuls. Mais maintenant, ils ont trouvé un système par lequel ils s'arrangent pour vraiment vérifier que la personne est là au début, à la fin, au milieu. Bon, je ne sais pas comment ils font. Bon. Mais en tout cas, sur cet aspect, la France n'est pas le seul pays à envoyer, à ne pas faire attention à la représentation. Et ça, c'est les partis. Ce sont les partis. Et vraiment, malheureusement, c'est une constante de beaucoup trop de partis. Pardon ? Non, c'est de l'info. C'est de l'info. Écoutez, excusez-moi, regardez la composition de certaines listes françaises. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont des partis, ils vont m'assassiner, je vais recevoir des lettres d'insultes demain. Je trouve qu'en France, encore une fois, on a manqué. Et écoutez, l'exemple de M. Lamassoure qu'on envoie à Paris, bon, bien sûr, il va survivre à Paris. Mais quand même, je l'ai vu dans des débats ici. Il est comme un poisson dans l'eau, c'est son pays. Bon, bien sûr, Béziers, c'est un peu moins son pays que l'anglais. Mais bon, c'est un... Alors, d'autres pays font ça aussi, mais c'est pas partout. En tout cas, la représentation allemande est nettement plus consistante. Et les gens, pourquoi ? Parce que on envoie trop de pays, la France le fait, envoie soit des jeunes, en disant, bon, tu te casses la figure là-haut, t'as pas eu les municipales, t'as pas eu des choses comme ça, hop, on t'envoie là-haut, quoi qu'il en soit, personne ne s'en occupe. Ou alors, on envoie des vieux machins qui n'ont plus rien à faire, et donc qui n'ont plus de vie. Et donc, alors que, et je vais prendre maintenant l'exemple de l'Angleterre. L'Angleterre et les deux partis, le conservateur et les Labour, il y a un parcours. Et c'est vrai que le poste de Strasbourg correspond au début. C'est-à-dire que si on veut devenir député à la Chambre des communes, on passe d'abord par Strasbourg. Mais c'est-à-dire que c'est pas réglementé, mais enfin c'est construit, des choses comme ça. Donc il y a une progression. Tandis qu'ici, en France actuellement, sur à peu près toutes les listes, on voit un peu trop n'importe quoi, je trouve, à mon goût, de démocrate, et malheureusement. Et ça renforce le sentiment que vous avez. D'abord, il y a trop de députés que vous avez entendus, il y a trop de députés français qui sont absents. Et ils sont dispersés. J'ai été frappé au moment, parce que qu'est-ce qu'il y a dans la formation des commissions parlementaires? La formation, la décision des présidents. Il faut être là-bas, il faut être à Strasbourg. Il faut mettre le pied dans la porte. C'est du travail parlementaire qui se fait que vous parlez Bourbon, les gens font. À Strasbourg, quand il a fait la distribution des breloques, présidence et tout, les Français n'étaient pas là. Il faut préparer ça à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut faire une alliance avec les Allemands sur tel poste en disant, bon, toi tu prends ça. S'ils travaillent parlementaire, et bien ça, les Français ne le font pas. Est-ce que cette fois-ci, ils vont le faire? Mais comme ils envoient d'une manière générale, et pas des gens qui sont pas habitués, et je vais vous dire, la représentation. Alors cette région, maintenant, a une bonne représentation régionale à Bruxelles. Mais vous allez voir certaines représentations régionales de certains pays qui sont implantées depuis 15-20 ans, on voit que l'ensemble des régions françaises a tardé. Maintenant, la région Midi-Pyrénées l'a fait. C'est mon maire, et ils font un bon boulot, mais ils l'ont commencé avec 10 ans de retard par rapport aux Allemands. Les Allemands, la Bavière, c'est la région la plus riche d'Europe, je suis d'accord, ils ont un bâtiment au pied du Parlement européen à Strasbourg. Vous avez l'impression que c'est plus riche que l'ambassade française. C'est normal, ils ont des Deutschmark, enfin non, des euros ou marques. Mais je veux dire, ça aussi, si vous voulez, c'est la même chose. C'est, il y a une volonté de travailler, les Britanniques travaillent les institutions européennes d'une manière très consciencieuse, même s'ils sont opposés. Ils travaillent d'une manière. Et ça, je veux dire, ça va malheureusement, je suis désolé de terminer sur cette note-là, parce que c'est un peu... mais j'espère que les peuples français régionaux vont réveiller nos députés qui vont y aller, parce qu'ils sont sûrement bien ceux qui vont y aller. S'ils sont élus, ils sont bien. Donc ils doivent être bien. Ils doivent faire leur travail. Désolé de dire ça. Comme ça.
Moi, je souhaiterais quand même... Parce que là, vous avez une liste avec des noms de députés, et ce sont des députés qui, hélas, ne sont pas dans les journaux, ne sont pas mis en valeur par les médias, sont pas forcément appréciés par à leur juste valeur par les partis, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas reconduits, mais dans les noms que vous avez notés, quand même, ce sont déjà des Français, de tous les Français que vous avez cités, sont des gens qui bossent. Moi, c'est un peu, je prends le contre-pied de ce que vous êtes en train de dire, c'est que les députés qui travaillent, qui en veulent, il y en a. Le problème, c'est que on ne fait rien, et c'est vrai que de s'informer sur l'Europe, comme vous venez de le faire ce soir, c'est quand même important, parce que sachez qu'il y en a qui travaillent, et ça serait intéressant que ces gens-là aient un petit message comme quoi on sait qu'ils y sont, là. Là, c'est pareil, c'est pas partisan mon propos, parce qu'il y en avait des deux côtés. Mais effectivement, et parmi les noms que vous avez marqués sur la liste qu'on vient de voir, je peux vous dire, il y en a certains, ils ne sont même pas reconduits, alors qu'ils sont appréciés partout, ils sont appréciés par tous leurs interlocuteurs. C'est effectivement un mal français, et comme vous étiez en train de le dire, ce n'est pas uniquement français, mais c'est dommage.
C'est sûr, et c'est regrettable, parce que Le capital, et on connaît certains noms, le capital qui a été investi dans ces personnes, il est perdu. Et les nouveaux vont devoir recommencer. Bon, Donc moi je dis, ils vont sûrement s'y mettre, ils sont pas plus bêtes que les autres. Mais donc c'est, je crois que c'est en tout cas la vigilance des citoyens, des électeurs, qui devra s'exercer encore plus que jamais pour justement contraindre nos députés européens. Même si on vote une couleur, tous nos députés de la région, on devra leur demander qu'ils nous rendent des comptes et qu'ils nous disent ce qu'ils font et pourquoi ils l'ont fait comme ça. Je crois que ça, c'est important comme processus démocratique, de façon à ce que nous nous engagions. Et que l'on soit contre l'Europe ou pour l'Europe, ça n'a rien à voir. Mais que la représentation française soit... elle travaille, mais elle travaille en ordre dispersé. Donc, pas d'une manière aussi efficace que d'autres pays. Et c'est pour ça que j'ai dit les Anglais, parce qu'ils sont tellement contre l'Europe, mais en tout cas, ils travaillent efficacement. Et les Allemands aussi. Eux, ils sont plus pro-européens. Donc, si vous voulez, c'est pas...
Parmi les citoyens français, beaucoup se posent la question, l'Europe, à quoi ça sert? Et ce qui conduit derrière à avoir un taux d'absentéisme aux élections européennes important. Et je crois qu'en fait... en France, au moins, nous avons bénéficié dans les divers investissements de beaucoup de fonds européens. Et ça, je crois qu'on l'ignore. Et quelquefois, les députés, au lieu de dire que c'est grâce à l'Europe, ils disent c'est grâce à moi.
C'est exact. Là, théoriquement, il y a quelque chose. C'est-à-dire, quand on bénéficie d'un fonds communautaire, le fonds, par exemple, régional, on doit en faire une très belle publicité. Vous allez en Espagne, vous allez en Italie, vous allez en Grèce, vous allez avoir la publicité. Elle est propre, elle est visible. Trop de projets en France n'ont pas cette publicité. Et théoriquement, d'après les règlements, il devrait y avoir une sanction au niveau communautaire, de je ne sais pas quelle forme, mais c'est pas fait parce que les fonctionnaires n'ont pas tout le temps aller voir s'il y a tel panneau et tout. Donc c'est un peu justement la mentalité qui fait que on préfère s'arroger les bonnes choses, et donc on dit c'est moi qui l'ai eu. Alors on peut dire c'est moi qui l'ai eu, mais c'est grâce au fonds communautaire. En tout cas, au niveau Midi-Pyrénées, il y a eu une excellente initiative, je crois qu'elle date de l'année dernière, donc les bénéficiaires des fonds dans la région, donc c'est sur ce site, je sais plus comment c'est, l'Europe investit pour vous, c'est très bien fait, il est très convivial, c'est un site internet, et vous avez tous les bénéficiaires avec les montants qu'ils ont eus et la description du projet. Donc là, c'est pas un panneau sur le bord de la route, mais c'est quand même une certaine forme de publicité, et ça, c'est un progrès. Je pense que c'est fait dans d'autres régions françaises, et c'est un peu en pointe, parce que du coup, au niveau de Bruxelles, ils l'ont repris. Donc là, si vous voulez, je suis pas gentil avec la France, mais je pense que ça, c'est un progrès énorme.
Et je vais revenir un peu en arrière, c'est lorsque vous avez parlé des pays qui demandent à adhérer à l'Europe et qui sont dans un processus d'adaptation par rapport à la législation européenne, par rapport aux règles fixées. Il y a bien un pays dont on parle ces jours-ci, qui n'est peut-être pas, en termes de règles, dans la procédure de rapprochement, mais au moins son peuple l'y est, il l'est par le sang, c'est l'Ukraine. On a un candidat que personne n'avait prévu.
Voilà. Donc ils sont, comme vous l'avez dit, ils ne sont pas candidats. Et pour le moment, je pense qu'au niveau européen, on a dit les Européens sont égoïstes et ils ne pensent qu'à eux, ils ne s'occupent pas de ce qui se passe. Si on avait pris une position trop marquée dans cette crise, il y avait un risque énorme d'affrontement direct comme il y a eu dans d'autres pays du Caucase les années précédentes. Je ne dis pas que ce qui avait été fait en Géorgie est une mauvaise chose, hein, mais en tout cas, le risque était là de le faire. Et avec une position du président russe ou de son premier ministre marquée et qui aura été dans une crise. Pour le moment, la gestion de la crise n'est pas glorieuse, et en tout cas, ils ne sont pas candidats, et je ne sais pas s'ils seront candidats. Parce que s'il fallait qu'ils soient candidats, il devrait peut-être y avoir partition. Or, l'Union européenne n'encourage pas la partition des pays. Elle n'encourage pas la partition. Il y a une déclaration de Monsieur Barroso sur l'Écosse. Elle n'encourage pas la partition de la Catalogne. Donc, ce n'est pas en ce qui concerne l'Ukraine, ça n'est pas. Alors, par contre, le problème maintenant est de trouver une réponse économique qui représente pour ce pays qui va être bientôt exsangue, s'il ne l'est pas déjà maintenant, de donner une réponse. Et M. Lamassoure, l'autre soir, sur Antenne 2, a dit qu'il n'y avait pas de sous dans la caisse. Et c'est vrai, il y a très peu de marge. Donc, il faudra donner des opportunités économiques de développement à ce pays. Et c'est pour ça que la réponse est aussi chez les Russes. Donc, on est obligé, là, vraiment, de ménager. Les Américains le savent bien. Ils n'ont pas plus de disponibilité. Ils n'ont pas envie d'investir trop sur l'Europe de l'Est. Ils laissent ça, maintenant, c'est la cour de récréation des Européens. Donc, si vous voulez, ils sont peut-être candidats parce que on a l'impression que ils sont proches de nous et ils ont montré le drapeau européen. C'est un pays qui est très très pauvre. Il se compare à d'autres pays, au point de vue des critères économiques, il se compare à ceux des pays qui sont potentiellement candidats. Donc, ce sera un très long processus si ça se faisait, et c'est pas pour tout de suite. Mais il faut trouver une réponse économique et politique qui soit correcte.
Oui, il est branché. Un des reproches qui est fait à l'Europe, c'est le poids des lobbies. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot, notamment sur le travail de la Commission?
Alors, c'est pour ça que je vous ai cité le bouquin de M. Bouvet, parce que c'est un de ses thèmes. Le hold-up, c'est le poids des lobbies, sans sous-titre. Bon. Alors, l'intérêt, c'est que on a ouvert à Bruxelles les lobbies d'une manière récente, et en tout cas, il y a un registre systématique des lobbies. Donc, ne peuvent intervenir auprès du Parlement ou de la Commission que des lobbies qui sont officiellement reconnus. Ils doivent déclarer leur objet. Et donc, par exemple, moi je recevais des gens, à l'époque il n'y avait pas de registre, donc les gens venaient nous voir, bon... Mais maintenant, ce sera beaucoup plus codifié. Donc, il va y avoir une transparence sur ces lobbies. Alors, bien évidemment, la transparence, elle devra être exercée par la Commission, mais aussi par le Parlement. Donc, le Parlement a une vocation de vigilance sur ce point. Donc, je pense que on n'est pas indemne de ça dans beaucoup de pays de l'Union, et on n'a peut-être pas des critères de transparence aussi développés. Mais au niveau européen, on bénéficie, je dirais, des chevaliers blancs nordiques, qui ont, eux, une notion très poussée de l'éthique politique, jusqu'à trop parfois. Bon. Mais en tout cas, en mélangeant tout ça, on peut arriver à faire des systèmes qui soient plus transparents et où on peut réellement savoir. Il y aura toujours des exemples, comme ceux qui sont cités par M. Beauvais dans son bouquin, il n'a pas tort, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit dit et que la vigilance soit exercée par le Parlement et aussi par des systèmes systématiques comme celui que j'ai passé, l'enregistrement dans un registre avec la déclaration du chiffre d'affaires, ce lobby ne peut pas faire de représentation pour autre chose que sa raison optique. On ne peut pas mettre un nom bidon sur les valeurs démocratiques et en fait défendre un intérêt économique national. Donc il faut qu'il y ait une cohérence. Ça sera mis en place peu à peu.